France-États-Unis, un commerce équitable. Une émission de Régis Debray. Aujourd'hui, la pizza avec Paul Soriano. Les civilisations qui marchent bien, ont une caractéristique. Elles intègrent les traits de culture étrangère. Elles les ingurgitent, elles les adoptent, mais elles les décloisonnent et les recyclent tous azimuts. Elles transforment un produit au départ folklorique en un bien marchand global qui a un avantage, qui est de rendre accessible à tous ce qui n'était que de quelques-uns. Cela est bon parce que cela nous rappelle que le marché et le commerce ont toujours été des agents de civilisation. En ce sens, Pizza Hut, entreprise florissante s'il en est, fait partie intégrante d'une mondialisation à l'américaine. Et la métamorphose en un demi-siècle de la pizza napolitaine, un mets réservé aux plus pauvres, dans le plat le plus international qui soit, témoigne de cette aptitude des grandes civilisations à faire feu de tout bois et de toute farine. L'offre nutritive est une composante du soft power. Alors, la poule au pot d'Henri IV n'a pas eu la même fortune, ni la choucroute, ni le strudel germanique. Et on comprend qu'un ministre de l'Agriculture italien ait récemment demandé le classement de la pizza auprès de l'UNESCO comme symbolique d'une tradition et d'une identité culturelle. Mais c'était un peu tard pour récupérer son bien. La pizza, le fast-food aidant, et je vous rappelle qu'il y a 28 000 McDo sur 5 continents, la pizza était déjà globalisée. Et l'industrie du congelé et de la communication avait déjà coupé le lien avec la baie de Naples. Parce qu'il y a désormais une table planétaire, comme il y a une planète alimentaire, et cette globalisation, comme il arrive avec le mainstream, se nourrit de particularismes. Le taco, le chop suey, le tandoori, il figure à côté des hamburgers et du hot dog, mais c'est le prodigieux essor de la pizza qui illustre le mieux cette dialectique à l'œuvre entre le mondial et l'ethnique, entre l'indifférencié et le singulier. Et c'est là un exemple moins trivial qu'on ne pense, de cette pompe aspirante et rediffusante qui sait mieux que tout autre, faire de l'universel, disons, avec toutes sortes de spécialités du terroir. Et personne ne pourrait mieux nous en parler que notre ami Paul Soriano, d'origine italienne, rédacteur en chef de la revue Medium, et j'ajoute gourmet avisé. Alors, mon cher Paul Soriano, la pizza, ça vient d'où? Je veux dire, le mot d'abord, et puis, c'est quoi l'histoire de la pizza, ce mélange bizarre de pâte à pain et de tomates? Vous pouvez un peu nous donner des indications?
Oui, alors, c'est une affaire assez compliquée, et je proposerais de faire une première référence à l'étymologie. Parce qu'elle va, l'étymologie va nous mettre déjà la puce à l'oreille sur les origines de la pizza et sur le caractère complexe qu'elle entretient avec culture et civilisation. Trois origines diverses, et peut-être davantage. D'abord, une origine grecque, pita. La pita, c'est une galette en grec. Elle me paraît la plus vraisemblable. Mais on trouve également une origine germanique, d'un mot qui signifierait un morceau, comme on dit, un morceau de pain, un morceau de viande. Et ça m'a aussitôt fait penser à l'italien pezzo. En italien, pour dire on va manger un morceau, on dit qu'on va manger un pezzo. Et c'est le même terme que notre français pièce, comme on dit une pièce de viande. Et ce mot-là, on lui trouve aussi une origine celte. Donc déjà, pour une affaire simple, culturellement bien enracinée.
Enfin, Naples tout de même.
Oui, mais on se retrouve avec trois origines grecques, germaniques et même celtes. Alors, Naples, en effet, c'est la solution pour simplifier un peu. Et je propose d'être très dogmatique. On va admettre que la mère de toutes les pizzas est une pizza napolitaine qui s'appelle la marinara. Alors attention, la marinara, c'est pas comme on le croit en France, une pizza avec des fruits de mer. C'est la pizza des mariniers, donc des pêcheurs, la plus simple, la pizza originelle, étant entendu que la mère de toutes les pizzas peut avoir un arbre généalogique sur 8 ou 9 siècles extrêmement touffu.
Alors, il y a de la pâte à pain, d'abord.
Alors, voilà, en sélectionnant la marinara qui est composée exclusivement de pain et de tomates, éventuellement aromatisées, de l'huile d'olive, de l'origan, tout ce qu'on voudra, mais les ingrédients de base, il n'y a même pas de fromage, hein, pain et tomates, déjà, là, on commence à avoir à faire des difficultés, parce que le pain, après tout, c'est pas un fait culturel, c'est déjà un fait de civilisation. Il y a du pain partout en Europe, il y en a dans le monde. Donc en faisant ce choix de la marinara, il y a des conséquences quand même lourdes, c'est qu'on retarde la naissance de la pizza puisque elle est spécifiée vers 1750, hein, ce qui est déjà tard. Et de toute façon, ce qui nous intéresse ici essentiellement, qui est sa propagation, c'est 2 siècles plus tard, puisque c'est tardif aussi, c'est la deuxième moitié du XXe siècle. La difficulté, c'est que le deuxième ingrédient, lui, est celui qui va nous poser le plus de difficultés, parce que, après tout, il n'y a pas de tomates en Europe avant le XVIe siècle, avant donc que la civilisation espagnole du siècle d'or prenne la tomate en Amérique dite latine, Mexique ou Pérou, et qu'elle la transporte en Europe. Et malheureusement, pendant des décennies encore, la tomate n'est pas consommée parce qu'elle a une mauvaise réputation, elle est considérée comme toxique. Le premier plat qui intègre de la tomate avec une date connue, c'est le début du XVIIe siècle, et c'est un plat qui est aussi répandu, qui s'appelle le gazpacho, qui est une soupe froide à base de tomate et qui est devenu également un plat répandu.
La question est de savoir, ce plat est donc un mets de pauvres, si j'ai bien compris. J'aimerais savoir comment il arrive aux États-Unis d'Amérique, de Naples.
Alors, avant même que la pizza elle-même arrive aux États-Unis, il y a une petite anecdote qui est amusante, c'est que alors que la tomate vient d'Amérique latine, son arrivée en Amérique du Nord, donc clairement aux États-Unis, a fait un petit détour par la France, semble-t-il, puisque c'est le président Jefferson, je crois que c'est le troisième président américain, qui l'aurait découverte lors d'un voyage à l'aube de la Révolution en France et qui l'aurait ramenée chez lui, dans ses bagages, pour la cultiver et la consommer dans son domaine, qui devait être un domaine de Virginie. Donc voilà encore déjà un autre détour.
Enfin, grossièrement, comment on passe de la pizza napolitaine à Pizza Hut ?
Alors, comment on passe de la pizza napolitaine à la Pizza Hut ? Je dirais par une étape intermédiaire très importante, qui est la fin du 19e siècle, avec les grandes migrations, notamment italiennes, vers l'Europe, mais surtout vers les États-Unis. Pendant longtemps, on a pu manger de la pizza, avant l'industrie de la pizza, on a pu manger de la pizza tout simplement parce qu'on résidait à proximité d'un Little Italy à New York, à San Francisco, voire à Chicago.
Donc le maillon intermédiaire, ce sont les émigrés italiens qui, après 1880, arrivent aux États-Unis, avant même qu'il y ait une émigration du sud vers le nord de l'Italie. Et donc c'est la Little Italy qui va en quelque sorte commencer d'américaniser la pizza ou d'italianiser
plutôt
l'Amérique?
Je dirais plutôt d'italianiser l'Amérique. Et ce qui paraît aussi intéressant à noter, c'est que probablement des Américains ont mangé de la pizza, je veux dire des Américains non italo-américains, ont probablement consommé de la pizza avant les Européens et même avant les Italiens du Nord. Parce que les Italiens du Nord, après tout, se sont mis à consommer de la pizza de manière régulière également dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ils en connaissaient l'existence, mais c'était un produit exotique, un produit du Sud pour eux. Et donc, ils n'en étaient pas friands.
Et quand la pizza revient d'Amérique, les patriciens d'Italie du Nord se disent « Ah bon, bah, on peut en manger ».
Je crois que c'est peut-être un peu avant et que auparavant quand même les émigrés italiens ont la surprise de découvrir la pizza peut-être à Marseille ou à Nice. Donc je dirais que avant même que les Américains apprivoisent en quelque sorte la pizza, paradoxalement aux yeux des Italiens, elle a peut-être aussi été découverte. J'ai lu quelque part que les Italiens, ce qu'on appelait à l'époque les Piémontais, c'est-à-dire tous les Italiens du Nord étaient des Piémontais, étaient assez surpris de découvrir la présence presque massive de la pizza quand ils allaient à Marseille ou dans le sud de la France.
Alors, qu'est-ce que la pizza industrialisée ? Il faudrait que vous nous parliez de Pizza Hut tout de même. Qu'est-ce que c'est que cette entreprise ? Quand est-ce qu'elle est née ?
Alors, Pizza Hut, en forçant à peine le trait, on peut dire que c'est une espèce de start-up. Elle est née très précisément en 1958, c'est assez proche de nous. Je dis qu'elle ressemble à une start-up parce qu'elle aurait été fondée par deux étudiants de l'université de Wichita, je crois que c'est dans le Kansas. Et ces deux garçons, un peu comme plus tard les gens de la high-tech, ont l'idée de commercialiser une pizza, sans doute à destination des étudiants au commencement. Et ils font ça non pas dans un garage comme Steve Jobs et ses amis, mais dans une espèce de hangar qui s'est appelé, dans les dépendants dans l'espace de l'université et qui est sans doute à l'origine du mot hut qui veut dire une hutte.
Et qu'est-ce
Là,
que...
on est en 58.
D'accord. Et qu'est-ce que la pizza hut apporte de plus ou de moins?
Alors, d'abord, il faut souligner que, américaine ou pas, italienne, française, etc., ce qui est remarquable dans la pizza, c'est qu'elle continue à s'appeler une pizza. Et non seulement elle garde son nom, donc son identité, mais je dirais qu'elle est reconnaissable. Si je vous montrais une pizza Hut ou McCain, vous pourriez regretter ou approuver telle ou telle option qui a été prise pour cette pizza, mais c'est une pizza, incontestablement. Donc, elle a gardé son identité. Mais elle l'a gardée, je dirais, à l'américaine. Alors, qu'est-ce qui la distingue fondamentalement? Je dirais deux ou trois choses. D'abord, la pâte, qui est en général plus épaisse, et aussi la diversification de la pâte. C'est plus la pâte napolitaine typique. L'usage, j'oserais presque dire en tant qu'Européen, surabondant du fromage, et surtout l'empilement en couches des ingrédients. N'exagérons pas, j'allais dire, sur le modèle du McDo, mais c'est un empilement. Alors que, dans le cas de la pizza italienne, on procède plutôt en surface, avec des ingrédients qui sont répartis sur tout le disque rouge de la pizza. Ça, c'est les différences essentielles.
Mais qu'est-ce que la pizza industrialisée et donc mondialisée a modifié en Italie même et en France, en quelque sorte, le colis retour avec tampon Pizza Hut? Ça change quoi dans nos habitudes européennes de consommation, je dirais, après 1945, puisque c'est à peu près là que s'opère, je dirais.
Oui, et même plus tard, avec l'industrialisation, on l'a vu à partir des années 50, fin des années 50.
Qu'est-ce que ça change?
Alors,
chez nous,
ce que ça change de fondamental, c'est la diffusion de la pizza, et pas seulement de la pizza américaine. La grande diffusion, la consommation populaire, mais contrairement à ce qui peut se passer avec d'autres industries, on ne peut absolument pas dire qu'il y ait un combat à mort entre l'industrie et l'artisanat. Il me semble que dans le cas de la pizza, ce qu'on observe, c'est très exactement le contraire. Autrement dit, l'industrie, la diffusion industrielle et grande distribution de la pizza nourrit le développement de la pizza artisanale, fait proliférer les pizzerias dans le reste du monde.
Ça, c'est...
Et inversement, la présence de pizzerias, de pizzas artisanales traditionnelles, légitime en quelque sorte la pizza.
C'est ce qu'on appelle en médiologie l'effet de jogging, c'est-à-dire depuis que les citadins ne marchent plus puisqu'ils sont dans leur petite automobile, ils se sont mis à courir.
Oui.
Donc on voit en quelque sorte la réactivation d'un certain archaïsme local par une mondialisation indifférenciée. C'est vrai qu'il y a toujours une dialectique assez heureuse, mais qui n'était pas prévue par les grands programmateurs, qui est la dialectique du global et du local. Le local ne meurt pas, il se régénère, ou en tout cas, il recommence. Mais alors, une petite question, mon cher Paul. La pizza est-elle transclasse? Est-elle au contraire un marqueur social, à la fois aux États-Unis, mais chez nous.
Non, je crois que la pizza est définitivement, comme on dirait en américain ou en anglais, est transclasse. Bon, il est possible que les premiers Milanais ou les premiers Turinois qui ont osé manger de la pizza, ce plat du méridione, c'était peut-être en effet des bourgeois attentifs à innover ou à prendre des risques, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, non, c'est un plat qui est totalement transclasse, à la différence, il faut bien le reconnaître, de beaucoup de nourritures exotiques ou internationales qui sont des marqueurs de classe.
Oui, mais être transclasse, ce n'est peut-être pas un avantage. Disons, moi, si je veux faire honneur à quelqu'un que j'invite à déjeuner, si je rencontre une jolie jeune femme que j'invite, bah, j'essaye de ne pas l'emmener dans une pizzeria tout de même.
Ah, vous pourriez avoir une stratégie beaucoup, beaucoup plus subtile. Vous pourriez avoir une stratégie qui commence avec une pizza à déjeuner, par exemple dans un cadre professionnel ou paraprofessionnel. Après quoi, la deuxième étape serait le dîner. Et alors le dîner, dans la stratégie repas, c'est très important parce qu'un dîner peut présumer un futur petit déjeuner pris ensemble. Alors, et là, on va voir apparaître les marqueurs de classe, je crois, parce que quand on est en milieu anglo-saxon, comme en Angleterre ou aux États-Unis, le dîner, la première étape, c'est italien ou indien. Aux États-Unis, encore peut-être italien ou chinois. Et si les choses se passent bien, il y aura probablement une étape ultérieure où là, on va monter en gamme et en prix.
Dans le flirt, oui. Enfin,
oui, on progresse en quelque sorte.
Vous me donnez une stratégie de la drague, vulgairement.
Absolument. Et l'étape suivante...
On commence par la pizza, mais on finit.
Alors, l'étape suivante, c'est évidemment le français. Plus raffiné, plus coûteux.
Pour un Américain.
Oui, ou un Anglais. Et éventuellement, peut-être un japonais aussi, ça peut faire tout à fait l'affaire. Mais là, on est vraiment dans le marqueur de classe et la montée en gamme.
Il y a tout de même, puisqu'on parlait industrie, donc mondialisation, il faut peut-être mentionner le fait que la pizza est consommable à domicile.
Oui, ça c'est très important.
Il faut mentionner le camion à pizza, il faut mentionner le congelé, il faut mentionner le carton.
Alors,
dites-moi, il y a une affaire tout de même de packaging,
tout à fait, oui,
de
oui.
Pub, etc. Non. Est-ce qu'on peut tout de même réfléchir à ça qui n'existait pas, à mon sens avant 1945, non?
Absolument. Il faut bien souligner que la pizza n'est pas seulement consommée mondialement, elle n'est pas seulement transclasse, elle est transhabitude de prise de repas, et du coup, elle est transforme commerciale de distribution. Hein, si on veut essayer d'être complet, une pizza, ça peut se consommer dans une pizzeria, mais artisanale ou de chaîne. Ça peut se consommer en vente à emporter, et souvent les pizzerias italiennes en particulier font de la vente à emporter, en livraison.
Ce qui suppose un scooter, ce qui suppose des moyens de mobilité, Un camion, éventuellement.
Il y a la livraison à domicile ou au bureau. Ce sont des moments tout à fait différents. Et puis, à la fin, il y a l'achat au supermarché ou dans une grande surface spécialisée, la pizza congelée. La pizza hut que vous avez mentionnée tout à l'heure pratique à peu près toutes ses formes, restauration, vente à emporter, livraison. On en oublie parce que de nos jours encore, on consomme de la pizza al taglio en Italie, c'est-à-dire une pizza qui est carrée et qu'on découpe et qu'on consomme dans la rue, et qui est une pizza un peu différente. Elle est assez épaisse et encore une fois, elle se consomme coupée.
La pizza est ronde, mais le carton est carré.
Alors voilà, on approche...
C'est une jolie invention, ça.
Oui, c'est une invention logistique, tout simplement, parce que finalement, un disque, ça peut être difficile à manipuler, et le carton à pizza, lui, est un instrument logistique idéal, à la fois pour stocker, empiler les pizzas, et pour les mettre sur la plateforme adaptée du scooter, en effet. Là, on commence à rentrer dans la contribution des technologies à la diffusion de la pizza. Bon, on va pas rentrer dans le détail des techniques de production de la pizza, encore que four à bois, etc., ça ne soit pas sans importance, mais en parlant de pizza surgelée, on a mentionné quand même les deux technologies reines que sont le congélateur et le micro-ondes en termes de diffusion.
Il ne faudrait pas oublier tout de même quelque chose. La civilisation américaine, je ne dis pas qu'elle nous infantilise, comme on disait jadis, les grands enfants, mais c'est une civilisation qui s'adresse aux enfants. Et les enfants aiment la pizza. Oui. Ils veulent de la pizza. Quand le camion pizza arrive dans le village, le petit garçon ou la petite fille va commander sa pizza. Alors, moi, je dis que quand les enfants réclament, l'Amérique a gagné. Est-ce que je me trompe ?
Et vous parlez des enfants, mais il y a une autre notion américaine lourde qui est peut-être encore plus significative, c'est les teenagers. En Italie, par exemple, la pizza était le synonyme des premières sorties autonomes, indépendantes. Ce qu'on allait manger dans ce cas-là, c'était une pizza. La pizza a un lien avec cette autonomie des...
Avec la catégorie jeunesse, avec la création de la jeunesse comme culture.
Donc des teenagers. Finalement, la question quand même essentielle, on tourne autour depuis un moment, mais on pourrait peut-être se demander systématiquement, à la lumière de la saga de la pizza... Pourquoi finalement cette civilisation américaine est tellement douée pour opérer ce genre de processus ?
Alors, c'est-à-dire cette façon de capturer un trait de culture étrangère et de le réémettre, de le rediffuser à l'échelle mondiale, mais transformé.
Avec ses instruments propres. Que sont le commerce, la technologie, etc. Cela dit, avant, alors, il y a la question de la puissance, mais qui est triviale, je veux dire, c'est l'impérialisme, si vous voulez, quand la civilisation, quand le monde nous appartient, ben, on peut y faire son marché, tout simplement. Mais ça, c'est une raison qui est banale, elle s'appliquerait à d'autres empires. Moi, il me semble que la société américaine est essentielle pour comprendre ce phénomène. Car la société américaine, elle ne répond pas aux clichés qu'on lui associe, ce n'est absolument pas un melting pot. Dans un melting pot, on fusionne. Le plat du melting pot, ce serait la fameuse salade fusitu. Et c'est pas le cas observé.
Non, un empire est une mosaïque.
Voilà. C'est pas non plus un communautarisme fermé qui cloisonne. Disons que c'est un communautarisme ouvert qui autorise les influences réciproques. C'est là probablement qu'on doit mentionner la devise américaine, qui est à la fois le e pluribus unum, qui est une devise politique, mais après tout, on pourrait se servir de la même formule pour caractériser la pizza. Elle est vraiment e pluribus unum.
Oui, moi je dirais peut-être l'inverse. Unum, je dirais que, oui, disons, plus. Il y a de la pluralité au départ, puisqu'on mentionnait la tomate venue d'Espagne, la pâte. Et avec cette pluralité d'apports culturels, on fait de l'unum, c'est-à-dire on fait un modèle standard qui, par sa standardisation, peut circuler n'importe où.
Absolument, mais ce rapprochement...
On crée de l'uniforme avec, je dirais, un habit d'arlequin, quoi.
Absolument, un habit d'Arlecchino. Mais à condition de ne pas oublier que cette devise, elle est politique, elle s'applique au corps politique américain, mais elle s'applique aussi à l'économie américaine. Par exemple, pour diffuser la pizza dans le monde entier, c'est pas la peine d'avoir une multinationale homogène. On peut utiliser des formules commerciales telles que la franchise qui permettent d'être également et pluribus unum. La plupart des établissements de l'entreprise qu'on mentionnait tout à l'heure sont des franchises. Donc, c'est-à-dire que elles combinent la multinationale avec le commerce indépendant, en quelque sorte.
Oui, et encore une fois, elle fait vivre le global à partir d'intérêts particuliers locaux.
Absolument.
Ça, c'est une très grande force de la civilisation dominante, on peut dire. C'est même l'art de dominer, au fond, c'est l'art d'épouser tous les plis du terrain. C'est pas l'art d'imposer brutalement. C'est l'art de faire rencontrer son intérêt, en l'occurrence celle d'une entreprise américaine, avec les intérêts et les goûts d'autres participants à 6000 kilomètres.
Absolument. Alors si on ajoute à ça effectivement, j'allais dire la culture ou plutôt la passion américaine pour l'industrie et le commerce, mais aussi pour l'innovation. Tout à l'heure, on disait que Pizza Hut avait été une espèce de start-up avant les start-up. La culture également, la culture du fast-food aussi, ou du plat emporté.
Faut combien de temps à Naples pour faire une pizza?
Oh, c'est quelques minutes.
Quelques minutes.
Oui, quelques minutes. Alors, sauf si on rentre dans le folklore du pizzaiolo qui fait sauter ça. Mais ça, c'est plutôt pour amuser le touriste. Mais si on revient aux choses sérieuses, il faut quelques minutes, en effet, pour fabriquer une pizza. Plat à emporter, take-away, en tout cas, fast-food compatible, alors que ça peut être aussi au-delà du fast-food. On a mentionné la créativité commerciale, par exemple, la franchise, qui est très importante. Et ajoutons que c'est un marché rentable, très rentable. J'ai lu quelque part, je suis pas un spécialiste, un contrôleur de gestion de la pizza, mais on me dit que la pizza, ça se fabrique, une pizza ordinaire, ça se coûte 1,50 €. Bon, vous connaissez les prix auxquels c'est vendu, donc c'est un business tout à fait rentable.
Oui, comme la boulangerie pour la baguette de pain.
Voilà.
Les inputs sont extrêmement bon marché. Et la marge est forte. C'est pourquoi il y a tellement de boulangeries. C'est pourquoi il y a tellement de pizzerias, au fond.
Voilà.
De par
Et alors, on pourrait même mentionner le soft power. Il y a une autre acception du mot culture. Il y a la culture ethnique, dont on a parlé. Et il y a la culture au sens où on parle de culture rock'n'roll. On dit, qui est plutôt une attitude vers des comportements et des modes. On dit parfois, d'ailleurs, rock'n'roll attitude. Il y a une culture de la pizza également, qu'on a évoquée par bribes, et qui sans doute contribue à sa diffusion et à la pérennité de sa diffusion.
Thank you. France-États-Unis, un commerce équitable. Régis Debray, Paul Soriano.
Alors, je voudrais maintenant, en votre qualité d'Italien, si je puis dire, d'Italien francisé, vous demander de réfléchir avec moi sur ce qu'on peut appeler un prêté pour un rendu. Bon, les États-Unis ont fait d'un mets particulier un plat universel. Mais les Italiens ont fait d'un genre particulier le western spaghetti, j'allais dire, un super genre. Et là, en quelque sorte, c'est drôle de penser qu'il y a en quelque sorte un match retour. Naples a fécondé New York et Chicago, d'accord, mais tout d'un coup, on a l'impression que le génie italien, peut-être le génie de la parodie, reprend son bien. Alors, bon, je ne suis pas du tout un spécialiste du western spaghetti. Je note seulement que, sur le côté match-retour, les Américains avaient pris déjà à la culture italienne le péplum. Et le péplum était plutôt biblique, parce que les Américains sont protestants, donc disant que Charlton Heston et cultive Moïse, parce que c'est l'Ancien Testament. Mais enfin, moi, quand j'ai envie de voir un bon western, curieusement, je me tourne vers Sergio Leone. Comment vous expliquez ça?
Alors, je l'explique là aussi par un ensemble d'allers-retours. On n'a pas un aller simple et un retour simple. Vous avez mentionné, bien sûr, le péplum. Le péplum, c'est pas exclusivement italien, mais tout de même, c'est Rome.
Ouais, ouais.
Et alors, vous avez raison de souligner à quel point la capture du péplum par le cinéma américain s'est fait de manière, j'allais dire, presque naturelle. Et là, on retrouve une culture, en tout cas au sens religieux du terme. Pour, je ne sais pas, un protestant évangélique qui se prend parfois pour un personnage de l'Ancien Testament, il y a de bonnes chances qu'il se reconnaisse facilement dans un film qui s'intitule « Moïse, les 10 commandements, Bénure, etc. » Donc, d'un côté, les Américains empruntent le péplum. Ils ne le volent pas parce que le péplum était en déclin. Donc, ils lui donnent une nouvelle jeunesse et même une sacrée nouvelle vigueur. Hein. Ce sont des grands films.
Et quand le western est en déclin aux États-Unis, hop, les Italiens le reprennent en quelque sorte, le font d'un genre déclinant, une sorte de nouveauté.
Oui, mais n'oubliez pas, puisqu'on parlait d'échange, qu'avant qu'un réalisateur italien ait eu l'idée, au départ saugrenue, de faire un western, donc parodie, il a été lui-même exposé, après-guerre, au western. Tous ces gens, les Sergio Leone, les trois Sergio, le Corbucci, Leone et Solima, ont été des gens qui ont été exposés au western. Et peut-être que c'est par agacement qu'ils ont eu l'idée d'en faire une parodie. Car n'oublions pas quand même que western spaghetti, c'est un terme très péjoratif à l'origine. On est dans la parodie. Et le génie peut-être de ces réalisateurs, c'est d'avoir... il y a eu des centaines de western spaghetti sur une période très brève finalement, une dizaine d'années. Donc
il y a eu des milliers de western aux États-Unis, mais il y a que quelques John Ford. Bon.
Et alors le génie de ces réalisateurs, ça a été de faire de ce qui était au départ une parodie. Il y a un génie italien de la parodie, en effet. C'était d'en faire, sinon un genre à part entière, du moins une expérience réussie dans un genre qui ne leur appartenait pas, et bien davantage. Car enfin, le western italien, il n'est peut-être pas authentique, mais il est plus vrai, au sens où il nous montre des personnes. Il n'y a pas de cow-boy d'opérette dans le western spaghetti.
Je dirais que le western spaghetti est au western américain, ce que l'opéra est au théâtre. C'est-à-dire qu'il amplifie, il accentue, par exemple, les gouttes de sueur sur le visage.
Oui, les gros plans.
Il y a tout de même une sorte de sublimation, d'augmentation. Enfin, moi, je trouve que l'émotion visuelle et sonore est très forte.
Oui, absolument. Il y a des.
Il faut tout de même parler là de Morricone.
Oui, bien sûr. Alors, il y a quand même. Il y a aussi le visuel. Il y a les trognes. Il y a, comme vous le signaliez, les gros plans avec détails significatifs, comme je sais pas la mouche ou la goutte de sueur. C'est-à-dire ce que ce réalisme italien touche très vite au surréalisme et à quelque chose qui est caractéristique de l'art italien aussi, qu'on appelle le maniérisme, à la manière d'eux. Hein. Mais bien entendu, à opéra. Voilà. Dans le western italien, la musique n'est certes pas un simple accompagnement. C'est même pas seulement, comme déjà dans beaucoup de westerns, à vrai dire, une ressource dramatique. C'est une ressource de narration. Sergio Leone, je crois, quand il parlait de Morricone, disait que ça n'était pas un compositeur pour lui. C'était un co-scénariste. Et donc, il introduit dans le western, entre autres, le leitmotiv.
Oui.
Et là, c'est l'opéra.
Profondeur de champs, les déserts qui semblent de vrais déserts et les petites villes. Alors, les Italiens en ont. Ils ont la culture de la cité, n'est-ce pas ?
Voilà une chose que nous a enseigné le Western Spaghetti. On l'avait vu 100 fois dans un western, mais on avait retenu que le western, c'est-à-dire les grands espaces. Bien sûr qu'il y a des grands espaces aussi. Il y a des plans profonds, il y a des espaces à perte de vue. Mais après tout, un grand nombre de westerns se déroulent dans l'espace relativement clos d'une cité où des hommes déterminés, souvent de basse extraction, font la loi. Et ça, on l'avait peut-être, on l'avait vu, mais on l'avait peut-être pas suffisamment retenu. Et là, je vois effectivement un rapprochement à faire avec une certaine Italie communale où des hommes déterminés et souvent de basse extraction font la loi et mettent l'Italie à feu et à sang, urbi et orbi, c'est-à-dire à l'intérieur de la cité pour le pouvoir et dans le combat et dans la rivalité entre ces mêmes cités.
Mais Clint Eastwood ne mange pas de pizza.
Ah, est-ce qu'on aurait pu manger ? Oui, on aurait pu peut-être manger de la pizza dans certains westerns tardifs, post-1880. Mais enfin, là, on est un peu limite en termes de on frôle l'anachronisme tout de même.
Non, mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce dont on parle, c'est qu'on ne peut pas opposer, civilisation et culture. Une civilisation en phase d'expansion... Et c'est ce qu'est là, en un sens à la fois, je dirais, d'irréfutable et de sidérant, c'est qu'elle se nourrit de beaucoup de cultures qu'elle peut à la limite revitaliser. Et ces cultures nationales peuvent prendre leur bien dans la civilisation mère et en quelque sorte le restituer et l'améliorer. Et là, je trouve qu'il y a une circulation entre les deux rives de l'Atlantique, disons, qui est très symptomatique. Alors, nous sommes d'accord que Paul Soriano, que une civilisation, ça se passe pas dans les têtes, ça se passe dans ce qu'on a dans les mains, dans une façon de marcher,
oui, dans les objets, oui,
dans ce qu'on mange. Une civilisation, c'est un modèle de vie quotidienne. C'est quelque chose qui ne fait pas intrusion. C'est quelque chose qui infuse. C'est quelque chose de doux et de lent. Mais tout de même, il y a un point que j'aimerais que vous nous éclairiez. J'ai le sentiment que l'Italie est plus américanisée que la France. C'est-à-dire que l'Italie est tout de même... Nous, dans notre américanisation, nous avons toujours eu des réticences, voire des résistances. Pensons à l'après-guerre, au cinéma, au défilé des acteurs français contre Hollywood, etc. Mais on a l'impression... Moi, quand je vais aujourd'hui en Italie, n'est-ce pas, qu'au fond... Je ne sais pas si c'est depuis Berlusconi, mais ça doit remonter sans doute plus haut. Est-ce que je me trompe si je dis que l'Italie est plus américanisée que la France? Et si oui, pourquoi?
Alors, je crois incontestablement et spontanément, je réponds à la question, oui, il me semble que l'Italie est encore plus américanisée que la France, en ce sens qu'elle est plus ouverte à l'américanisation, mais j'ajoute tout de suite, sans complexe. Et ça, ça fait toute la différence à mon avis. Un exemple flagrant d'américanisation au-delà de ce que nous tolérons en France, alors même que nous tolérons beaucoup, l'américain ou le globish, en tout cas l'anglais, n'a pas encore pénétré notre univers institutionnel. En Italie, c'est différent. La loi travail de Monsieur Renzi ne s'appelle pas « legge lavoro », ça aurait peut-être des connotations difficiles, elle s'appelle Job Act. Toute la presse parle de Job Act, Monsieur Renzi lui-même parle du Job Act, et ça va beaucoup plus loin encore, c'est quand j'ai le malheur de m'inquiéter ou de m'étonner auprès de mes amis italiens de cet usage, ils ont deux réactions. La première est de surprise, ils sont surpris que ça me surprenne encore. Et la deuxième, et immédiate, c'est « Ah, ça c'est bien d'un Français ». Donc ils ont bien repéré la différence.
J'ai envie de vous dire qu'il y a une grande communauté italienne aux États-Unis, mais il n'y a pas de grande communauté française. Les Italiens ont émigré. Ils émigrent, ça donne Little Italy, ça donne Al Capone et beaucoup d'autres choses plus relevées, mais ça revient, donc c'est normal. Nous, peut-être que l'Italie était un pays pauvre. Et puis... plus pauvre, donc il fallait bien qu'elle exporte, si j'ose dire, une main-d'œuvre, etc., sans industrie. Et puis, peut-être que l'Italie n'a pas ce qu'on pourrait appeler l'amour-propre national étatique français, du fait de n'avoir jamais eu d'État, au sens fort du mot, d'État central, d'État monarchique, d'État qui fait la nation, puisque l'Italie est un puzzle de cités dont chacun a son histoire. Donc peut-être qu'effectivement, il y a peut-être plus d'astuces chez l'Italien et moins d'orgueil.
Oui, et aussi ils sont plus sûrs d'eux, hein, tout simplement.
Sûrs de leur culture.
Mais oui, ils n'ont pas besoin d'orgueil. Ils sont sûrs d'eux sur ce plan. Et d'ailleurs, on pourrait, à propos de centralisation, d'orgueil national, on pourrait dire que la cuisine italienne est restée beaucoup plus une cuisine régionale que la nôtre. La gastronomie, avec ses chefs étoilés, ça existe en Italie, mais c'est presque superflu. Moi, j'ai jamais été très convaincu par les restaurants. On y mange très bien, mais ils sont pas indispensables, les restaurants gastronomiques italiens. Du coup, je dirais les Italiens, non pas qu'ils manquent d'orgueil, presque au contraire. Ils sont sûrs d'eux, ils ont une capacité d'absorption, ils ne s'assimilent pas, mais ils ne rejettent pas, ils digèrent. Et d'ailleurs, l'attitude normale d'un Italien vis-à-vis d'une pizza américaine, c'est absolument pas de l'hostilité. C'est une espèce d'indulgence, d'arrogance carrément un peu amusée. C'est la pizza des enfants, en quelque sorte, et pas d'hostilité. Je voudrais vous signaler au passage qu'aujourd'hui, si j'en crois cette fois les chiffres de la profession, ce ne sont pas les Italiens qui mangent évidemment le plus de pizza dans le monde, ce sont les Américains pour des raisons évidentes de nombre, mais juste derrière, ce sont les Français. Pourquoi est-ce que les Italiens ne consomment pas plus de pizza? Eh bien c'est parce que, sans être rétifs à la pizza américaine, ils n'en ont pas besoin. Quand on est en Italie, la pizza du coin vous livre pour 5,50 € une excellente pizza. Donc franchement, je ne crois pas avoir vu beaucoup de pizzas surgelées dans un congélateur italien. Ils n'en ont pas besoin. Ils ont tout inventé, même Goldman Sachs. Goldman Sachs, c'est Venise, 12e siècle. Donc ils sont relativement... ils sont sûrs d'eux. Et donc, pour reprendre la formule qui est prêtée à Cocteau, je crois... Comment distinguer un Français d'un Italien? Un Français, ce serait un Italien de mauvaise humeur. disait Cocteau. Mmh. Je retournerais volontiers la formule en disant qu'un Italien, c'est un Français de bonne humeur. Ils n'en font pas d'histoire avec tout ça. Mmh. D'où apparemment leur capacité d'absorption beaucoup plus considérable de l'américanisation. Mmh. Mais on ne sait jamais très bien dans quel sens se fait l'influence.
Hein. Vous parlez d'influence, mon cher Paul, mais puis-je vous rappeler quelque chose ? Une influence est un mot joli, aérien, culturel. Mais me semble-t-il, une influence, c'est toujours le reflet d'une puissance politique et militaire.
Une influence, parfois soft.
Parfois soft, mais attendez. Une influence a une infrastructure. Et cette infrastructure, c'est un empire. Il n'y a pas de civilisation, au sens de civilisation, c'est-à-dire de civilisation... Oui. En acquérante, expansive, sans un empire, c'est-à-dire sans une suprématie militaire. Or, l'Italie n'a jamais eu, en tout cas depuis la fin de l'Empire romain, cette capacité impériale qu'a eu à un moment l'Angleterre, qu'a eu la France, et qu'ont aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Alors, évidemment, je sais bien qu'une culture qui est maligne, comme la Grèce pouvait l'être par rapport à Rome, elle a l'art, en quelque sorte, de refiler son âme au vainqueur. Autrement dit, elle est défaite physiquement, mais elle conquiert l'âme, le vaincu conquiert l'âme du vainqueur, métaphore célèbre de l'influence de la Grèce sur Rome. C'est un peu ce que l'Italie, peut-être, a cultivé l'art de faire, tant avec la France de la Renaissance. On envoie Léonard de Vinci à François Ier, et en quelque sorte, nous sommes italianisés. Mais est-ce que c'est chez les Italiens aujourd'hui une revanche, une consolation, pouvoir se dire, oui, bon, nous ne sommes plus dominants, mais au moins, les dominants américains mangent ce que nous avons inventé, et leur formidable western, ben nous le rendons encore plus formidable, nous lui rendons son âme, oui, en quelque sorte.
Oui, mais j'entends un point de vue français, un point de vue d'un Français qui voit toujours qui se voit en quelque sorte en rivalité encore avec les États-Unis,
c'est juste,
dans la compétition pour l'universalisme. Un Italien ne voit pas, à mon avis, les choses comme ça. Il se moque un peu de il y a un mot français que les Italiens utilisent de manière péjorative, c'est grandeur, la grandeur, la grandeur.
Les Allemands font la même chose avec l'expression grande nation. Ça les fait sourire.
Oui, mais j'insiste, pour les Italiens, il n'est pas question de revanche. Vous avez employé le mot consolation, pas du tout. Ils font preuve d'une certaine assurance que leur donne peut-être le fait qu'ils se considèrent, à tort ou à raison, comme des descendants du Grand Empire. Alors, on a parlé tout à l'heure du Western Spaghetti, mais j'ai oublié de dire l'essentiel. Les Italiens croient avoir tout inventé. Ils ont inventé, par exemple, la télécratie. C'est pas le cinéma, la télévision, c'est américain, d'accord. Mais la télécratie est une invention italienne. Berlusconi anticipe sur Donald Trump, tout de même.
Oui, oui, c'est vrai.
Pour le meilleur et pour le pire.
L'Italie comme laboratoire des formes politiques.
Oui, c'est déjà un laboratoire du Western Spaghetti. Quel est le premier Western Spaghetti? C'est un opéra d'un certain Giacomo Puccini qui s'appelle La Fanciulla dell'Ouest. Et ça, c'est 1910. Sur le Western Spaghetti, on a dit que c'est une séquence relativement brève. En fait, c'est une dizaine d'années seulement. Mais est-ce que vous avez pensé à la postérité? Elle est partout, la postérité du Western Spaghetti. Ça laisse des traces.
Quelles traces, par exemple?
Pas seulement dans d'autres westerns, y compris américains. Je ne veux surtout pas blasphémer. Mais il me semble, par exemple, que le rôle donné aux femmes. La femme n'a pas le beau rôle dans un Western Spaghetti, mais Claudia Cardinale a quand même un beau rôle. Et j'ai pensé à ça lorsque je regardais l'autre jour La Porte du Paradis, où avec le personnage féminin...
Les Portes du Paradis de Cimino.
De Cimino, avec le personnage... Ah, qui est certainement pas un Western Spaghetti, attention, pas
non,
de blasphème.
Ça, c'est une épopée sublime.
Mais tout de même, dans le rôle féminin joué par Isabelle Huppert, on retrouve un peu de cette du fait que les femmes n'ont pas, elles ont un rôle à défaut d'avoir
en fait,
le
mot. Le Western Spaghetti, il est même plus machiste que le western originel. Moi, quand je pense au western spaghetti, je pense même à la gueule de Clint Eastwood.
Bien sûr.
Je pense à la gueule des truands. Je pense à la barbe, alors peut-être que...
Ah ben, le western spaghetti a inventé la mode de la barbe de trois jours, oui, ça c'est clair. Oui, on a oublié de le mentionner.
Mais oui, alors, nos jeunes générations sont italianisées.
Du point de vue de la civilisation, c'est quand même capital. Oui, hein. Oui. Et puis, je pensais à d'autres traces. Je pensais à des traces dans le film, non seulement le film noir, le policier, le film d'espionnage, les trognes et tout ça, ça vient de là. Mais... Je regardais une série qui est une des séries les plus populaires qui s'appelle Game of Thrones, hein, une série d'après l'œuvre d'un écrivain américain qui s'appelle Martin. C'est une simple anecdote, mais sur ses portraits, je trouve que Martin ressemble beaucoup à Sergio Leone. Passons. Et je suis personnellement très frappé en regardant cette série par les bouts de séquence où on sent la patte du western spaghetti. Peut-être qu'on en rajoute, mais les malfrats, les trognes, les barbes de trois jours, les femmes qui n'ont pas le beau rôle, mais qui ont un vrai rôle. Il n'y a pas de nunuche. Hein. Il y a un personnage féminin qui est nunuche, mais elle reçoit tellement de coups qu'elle va vite devenir une femme forte.
C'est votre nationalisme italien qui opère, là. Vous voulez récupérer... Ce qui ne vous appartient pas, mais pourquoi pas?
Attendez. Il y a quand même, dans cette série dont je viens de parler, qui est quand même une formidable leçon de politique et de géopolitique extrêmement machiavélienne. Et donc, je me demandais, en voyant cette série, je me dis, mais c'est pas possible, ce Martin-là, il doit avoir des origines italiennes. Et en fouillant un peu dans sa biographie, en effet, Martin a un grand-père ou un arrière-grand-père italien. Alors même que sa série est américaine de production, c'est une série HBO, mais son inspiration, et il le dit lui-même, elle est beaucoup plus anglaise, écossaise, irlandaise. Les meilleurs comédiens sont des Anglais, dans cette série, sont des Anglais, des Écossais et des Irlandais. Et son inspiration directe en termes politiques, c'est, semble-t-il, la guerre des deux roses. Mais la guerre des deux roses, c'est très, très, très machiavélien avant l'heure.
Alors je retrouve en vous écoutant l'art du vaincu, chassé de l'histoire, qui se retrouve, aime à se retrouver dans toutes les manifestations des cultures voisines ou des cultures dominantes. Mais vous savez, nous, Français, nous sommes habitués à cela et nous sommes très fiers de la French Theory dans les universités américaines, comme vous, vous êtes très fiers. On a les fiertés qu'on peut, vous êtes très fier de retrouver la patte de l'italianité dans telle ou telle production littéraire ou cinématographique. Ah, voilà. Mais entre vaincus, on peut se parler, franchement.
Oui. Et puis nous parlions du français de bonne humeur ou de l'italien de mauvaise humeur.
Essayons d'être italien, c'est-à-dire de bonne humeur.
La quatrième partie de civilisation est tout à fait, à cet égard, italienne, puisque vous posez vous-même la question, qui a dit que sortir de l'histoire oblige à broyer du noir.
Absolument. Donc, essayons, quoique français, d'être encore plus italien.
J'étais en vacances depuis ma naissance, pas à la conquête de la grosse galette. J'ai tellement de chance, c'est de l'indécence. Et voici la recette pour une vie parfaite, en guise de cœur. Il faut une pizza. Entre deux, quatre saisons, j'ai sauté les plombs. Oh, qu'il est mignon, ce petit marmiton. Et sous les dredons, il est aux petits oignons. Mais mon père furibond, oh non.
C'était France-États-Unis, un commerce équitable, par Régis Debray. Aujourd'hui, Paul Soriano. Prise de son, Alain Joubert. Réalisation, Marie-Laure Ciboulet.
Je veux faire des chansons. J'ai pris mon baluchon et mes